With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Un podcast Binge Audio.
Short interest in GameStop.
That this GameStop situation is the craziest I think I've ever seen.
We have some breaking news right now on what has turned into the soap opera and saga of the markets right now, and that is the story of GameStop.
This video game store up 2,500% this year.
GameStop.
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 Melvin Capital is now out of the stock. They have taken a rather huge loss, something on the order of close to $3 billion.
We've watched the internet now really bring a bottom-up revolution, and now it is happening to finance. And I really do think this is really the start of a new era.
A lot of these customers felt like they were left out of the recovery from the 2008 financial crisis.
Salut, c'est Thomas Rozek. Dès que j'entends parler des marchés boursiers, j'ai immédiatement en tête une scène de ce chef-d'œuvre méconnu du cinéma, qui est le film Un fauteuil pour deux de John Landis, dans lequel, après avoir été malmené par des barons de la finance, Eddie Murphy et Dan Aykroyd unissent leurs forces pour les piéger, notamment via un coup fourré à la bourse de New York, impliquant l'achat et la revente de jus d'orange congelé. C'est dire l'impact qu'ont les représentations culturelles, pop culturelles même, sur notre perception du réel. Et si les marchés ont maintes et maintes fois été filmés, décrits, racontés par le menu, il n'en reste pas moins aussi opaque que lointain. C'est donc avec étonnement et fascination que l'inculte absolu en matière de boursicotage que je suis a suivi l'assaut, semble-t-il victorieux, en tout cas dans un premier temps, d'une horde d'internautes sur les marchés américains décidés à faire plier des fonds d'investissement voulant prospérer sur les malheurs d'une entreprise en difficulté. C'est ce qu'on a appelé l'affaire GameStop et elle sera au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité pour éclairer ma lanterne dans ces allées pour moi très brumeuses, c'est mon confrère Grégory Raymond, journaliste aux commandes de la newsletter spécialisée 21 millions pour le magazine Capital. Et je lui ai demandé pour commencer de réexpliquer pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire GameStop.
En fait, l'affaire GameStop, pour résumer, ce sont des petits porteurs qui se sont attaqués à des requins de la finance, à des hedge funds, qui se sont alliés et qui ont réussi à en faire tomber pas mal. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est historique. Pour une fois, c'est un peu David qui gagne contre Goliath.
Comment ça s'est mis en place? Comment ils ont fait pour justement damer le pion à ces hedge funds extrêmement puissants?
Mais en fait, l'histoire part un peu de loin. C'est, en fait, il y a GameStop, c'est une entreprise qui n'allait pas très très bien à la base. C'est un peu l'équivalent de Micromania aux États-Unis. Et qui a un peu manqué le coche de la révolution numérique. Et donc, c'est une boîte qui commençait à mourir tranquillement. Et il y a eu un peu un catalyseur en 2020. Il y a un investisseur activiste qui a pris des actions et qui s'est dit qu'il y avait encore des choses à faire autour de GameStop. Et donc, plein de gens, plein de petits porteurs se sont dit, mais si ce type-là qui est riche, qui investit, qui fait un énorme pari sur GameStop vient, c'est que l'action est sous-évaluée et qu'il y a quand même un intérêt. Et ça a déclenché donc plein de discussions sur Reddit, notamment sur le forum Wall Street Bets, donc qui réunit plein de petits investisseurs. Et pendant des mois, en fait, ils ont discuté du fait que cette action, ben, en fait, elle avait tout pour monter s'il y avait un entrepreneur de talent qui rentrait dans l'entreprise. Et c'est aussi au moment où, en fait, les hedge funds n'ont pas du tout cru à ce nouveau pari et ont parié que l'action allait descendre. Et donc, quand les gens de Wall Street Bets ont entendu ça, ils se sont sentis un peu floués parce qu'ils se sont dit, nous, on essaye de faire remonter tranquillement le cours de l'action parce que l'entreprise, elle nous plaît et tout. Et là, il y a des requins de la finance qui arrivent. Donc, ça a mis en place, en fait, ça a planté le décor, si tu veux, plutôt d'une bataille. Et donc, voilà, les petits porteurs se sont dit, ben, on n'a pas beaucoup d'argent, mais par contre, on est très, très nombreux. Sur le forum, ils étaient 2 millions au début. Là, ils sont quasiment 9 millions. Mais voilà, si chacun achète un petit peu, en fait, on peut faire plier les hedge funds qui, eux, ont parié à la baisse. Donc, on va les mettre à genoux. Et les mettre à genoux, en fait, ça veut dire ben, faire monter le cours. Parce que si les gros ont parié à la baisse, en fait, si l'action monte, ben en fait, ils perdent de l'argent. Et tant qu'ils ne liquident pas leur pari à la baisse, ben en fait, leur perte peut être infinie. Et donc, ils ont même à la fin, ils ont perdu 6 milliards de dollars en janvier, les hedge funds.
Pourquoi est-ce que c'est historique, ce genre de confrontation? Ça n'arrive jamais que des petits porteurs extérieurs, des boursicoteurs, mettent ainsi en péril les gros pontes de la bourse?
Jusqu'à présent, non, je pense pas. Hein. C'est pour ça que c'est historique. Mais parce que, vous voyez, la manipulation de cours, en fait, ça existe depuis que la bourse existe. Sauf qu'avant, en fait, c'était des poids lourds qui se réunissaient dans des salons feutrés et qui mettaient en place des stratégies, donc à la hausse ou à la baisse. Et ben, les petits porteurs se faisaient toujours avoir. Et là, ce qui a changé, c'est que ben, on a la possibilité de se réunir en ligne sur des forums autour de communautés. Et en fait, ben, les financiers professionnels se sont fait avoir à leur propre jeu avec finalement les mêmes outils, quoi. Et ça a été permis, je pense aussi, parce qu'il y a des applis financières qui n'existaient pas il y a encore 10 ans, comme Robinhood, qui est c'est un peu l'équivalent de Revolut aux États-Unis. Ça permet d'investir à partir d'un euro dans n'importe quelle action. C'est sans commission. Bon, bien sûr, il y a des frais cachés, mais en apparence, c'est pas très cher. Et donc voilà, l'association effet communauté plus outil pour investir très facilement, bah voilà, ça crée un cocktail détonnant pour en arriver là où c'est allé.
Comment la bourse, l'institution, a réagi à cette situation? Comment ils ont géré ça?
Ben, je trouve que ça s'est géré assez mal parce que ce que le public en fait a ressenti, c'est que on a tenté de protéger les hedge funds parce que quand on a vu que les hedge funds allaient se faire liquider sur leurs positions, en fait, les hedge funds ont appelé à suspendre l'achat d'actions GameStop et AMC aussi qui a aussi subi le même genre d'attaque. Et donc en fait ce qu'on peut penser, c'est que quand c'est les hedge funds qui en profitent, ben la bourse est très bien régulée toute seule, il faut pas trop intervenir. Par contre, quand les gros se font avoir, oulala, il faut vite mettre des règles et tout parce que ça va plus, quoi. C'est donc l'impact de cette communication là je pense a fait d'énormes dégâts sur la bourse, et je pense que ça, le côté finance folle et tout, va encore plus prendre de poids, en fait cette idée va encore plus prendre de poids, quoi.
Ce qui, moi, m'a donné envie de faire cet épisode, c'est que j'avais l'impression, et peut-être que c'est ma naïveté ou le fait que je n'y connaisse pas grand-chose à la bourse, mais j'avais l'impression que c'était une des premières fois où on avait la sensation d'avoir une possibilité d'action à une échelle individuelle sur des marchés qui semblent tellement loin et tellement opaque qu'ils ne font pas partie de notre vie, a priori, en tout cas pas de notre vie de tous les jours. On sait qu'ils ont un impact sur l'économie globale et donc par écho descendant sur nos vies, mais que l'inverse n'est pas forcément vrai. Là, ça montre que même nous, à notre petite échelle, on peut avoir un impact sur ces marchés.
Exactement, exactement. Et en fait, moi, je vois un petit parallèle en fait, avec le droit de vote, si tu veux. Parce que tu vois, il y a plein de gens qui ont mis, ben, par exemple, peut-être $30 dans GameStop et qui, là, aujourd'hui, ont peut-être tout perdu, hein, parce que l'action est montée très, très haut, mais elle vient aussi de redescendre. Il y a plein de gens qui ont investi, je pense, pas forcément pour se faire des plus-values, c'est aussi pour, ben, tiens, mettre un petit billet pour, en fait, critiquer la finance, quoi. Donc, ouais, je pense que oui, à ce niveau-là, c'est une première.
Est-ce que, on peut imaginer d'autres affaires GameStop ou d'autres cas de ce genre se mettre en place au fil du temps, notamment via ces communautés très organisées de boursicoteurs en ligne?
Ah oui, c'est possible que ça arrive. Hein. Il y a eu d'autres tentatives qui ont été tentées autour de l'argent juste après, mais bon, ça s'est révélé en fait une erreur parce que l'argent, c'est pas comme les actions d'une entreprise où il y a peu de liquidité. L'argent, c'est très 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 liquide, et pour faire bouger l'argent, faut vraiment être très 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 nombreux. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Je pense que à court terme, les activistes boursiers qui pourraient avoir envie de refaire ça, ils devront forcément viser des entreprises où la liquidité en fait sur les actions est assez faible, c'est-à-dire où il y a peu de gens qui achètent et qui vendent au jour le jour, quoi. Mais faut pas penser que ça n'a pas de force, parce que en fait, il suffit qu'on identifie des fonds vautours qui s'attaquent à une entreprise qui va mal, hein, comme GameStop, et voilà, et on peut refaire le même coup, hein. Il suffit en fait d'avoir les listings de où les hedge funds essayent de parier à la baisse, et voilà, peut y avoir des cas comme ça qui se reproduisent, bien sûr.
Est-ce qu'on sait un peu qui sont ces membres de ces communautés très actifs, notamment, donc on l'a dit sur Reddit, on sait un peu quel genre de profil, quel genre de public c'est, si c'est des amateurs purs et durs, si c'est des gens qui ont des petites connaissances quand même en finance. C'est quel genre de personnalité?
Alors, il y a de tout, hein, parce que ça brasse large. Hein. Là, aujourd'hui, donc, ils sont quasiment à 9 millions de personnes, hein, et beaucoup ont été attirés un peu par l'odeur du sang de cette affaire récente. Mais quand on voit, en fait, ce qui se dit, c'est, enfin, en tout cas, ceux qui parlent, ceux qui écrivent des posts, c'est quand même des gens qui s'y connaissent en finance. Je pense qu'on les voit un peu trop beaux parce que ils ont tendance à mettre des captures d'écran de leur plus-value, mais par contre, ils parlent pas trop quand ils perdent. Ça mélange un peu de monde, quoi. Mais il y a quand même eu un élan qu'on a pu remarquer. La plupart ont éprouvé beaucoup de plaisir, en fait, à voir Melvin, donc le hedge fund qui a pris le plus cher, hein, dans cette histoire. Ils ont pris beaucoup de plaisir à ce que ce hedge fund s'écroule, quoi. Je vais pas te dire que c'est des gens anti-système, mais bon, c'est peut-être des gens qui auraient pu être proches de Occupy Wall Street il y a 10 ans, quoi, en un peu plus agressif quand même, parce que voilà, les communautés en ligne, on sait qu'elles peuvent être parfois un peu violentes.
Tout cet exemple de GameStop, il concerne évidemment les marchés américains, donc la bourse américaine. Est-ce qu'on pourrait imaginer un mouvement de ce genre-là sur les marchés français, par exemple ?
Je suis pas sûr, parce que culturellement, les Français sont pas vraiment des boursicoteurs, quoi. On a revu un élan récemment quand la Française des Jeux a été introduite en bourse, hein. L'État fait en sorte que les particuliers investissent. Mais culturellement, en France, on n'investit plus dans l'assurance vie, dans l'immobilier, ce genre de choses. Donc, je pense pas qu'on pourrait trouver un élan comme ça. Mais par contre, c'est très possible qu'un forum comme Wall Street Bets s'intéresse à des entreprises françaises ou européennes qui auraient les mêmes caractéristiques que GameStop. Ça, c'est possible. Mais pour l'élan communautaire, je pense pas que ça puisse venir d'Europe ou de France, pour l'instant en tout cas. Hein. On remarque quand même que depuis cette année, avec le Covid et tout, les gens, ceux qui peuvent, hein, ont un peu plus épargné et ont commencé à redécouvrir la bourse. Donc peut-être que oui, sur 5 ans, 10 ans, on pourrait voir se créer des communautés comme ça, mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt, je pense.
Comment ça se passe si on fait un peu de cas pratique, de cas concret? Mettons que demain, je me découvre une âme de boursicoteur. Comment ça fonctionne? C'est quoi le pas à pas, on va dire, pour se lancer dans ce genre d'opération?
Ah bah, c'est très simple, hein. Donc il faut télécharger une appli financière, hein. Donc Robinhood ou Revolut, et il faut s'enregistrer dessus, donc de donner quelques renseignements personnels, hein, une copie de carte d'identité, ce genre de choses. Il faut quand même dire qui on est, quoi. Et après, en quelques minutes, c'est bon, hein. C'est une fois que c'est enregistré et validé, c'est bon, et on peut commencer à investir à partir de 1 euro. Et si vous voyez une action qui vaut 1000 euros, c'est pas parce qu'elle vaut 1000 euros que vous êtes obligé de dépenser 1000 euros. Vous pouvez acheter des fractions d'actions. Ça existe aussi. Donc, en fait, n'importe qui peut investir, hein. Et pour ceux qui nous écoutent, faut aussi faire très attention parce que, il y a des impôts là-dessus. En France, on est imposé à 30% de la plus-value.
Est-ce qu'on peut dire que c'est notamment grâce à l'augmentation des connaissances, donc là je suis un mauvais exemple en l'occurrence, mais à la démocratisation des connaissances des marchés financiers et de leur fonctionnement, que des histoires comme celle de GameStop sont rendues possibles? Est-ce qu'on connaît mieux aujourd'hui la bourse alors qu'elle est peut-être potentiellement encore plus compliquée qu'elle ne l'a jamais été?
Les outils sont toujours de plus en plus complexes, mais par contre, comme on disait tout à l'heure, il y a des applis grand public qui se sont lancées et qui font que les gens ont accès plus facilement à la bourse. Oui. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, moi, j'avais été intéressé. Non, mais il y a plus que ça. Je me rappelle, c'est quand Steve Jobs est mort. Je voyais quelques perspectives d'investissement dans Apple, par exemple. Et j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, et c'est peut-être ça qui m'a empêché d'aller au bout. Mais surtout, je savais pas où acheter des actions. Pour moi, c'était très nébuleux. Là, aujourd'hui, c'est très simple. C'est une appli, et les applis de finance, elles s'adressent vraiment aux jeunes. J'aime pas trop ce terme-là, mais les millennials. Donc, il y a vachement de gamification dans les applis. C'est très coloré et tout. Ça ressemble vraiment à une appli de réseau social. Hein. Donc, c'est très, très simple, beaucoup plus simple qu'avant, et il y a moins de commissions.
Et est-ce qu'on peut imaginer qu'à force d'histoires telles que celle de GameStop, les marchés et donc les gros acteurs du marché finissent par dire « Oh là, attendez, on va quand même pas laisser le Pékin moyen venir tripatouiller nos beaux flux financiers qu'on a l'habitude de gérer entre nous ».
Il pourrait avoir la tentation, mais ça, je pense que ça se passerait très très mal. Ça passerait très très mal dans l'opinion, quoi. Et aussi, les gens en fait ont conscience que pour sauver les banques en 2008, c'est l'argent du contribuable qu'on a utilisé. Depuis 2008, l'économie réelle, elle se porte pas de façon géniale. Par contre, les marchés n'ont jamais été aussi hauts, quoi. Donc il y a quelque chose d'injuste là-dedans. Donc si on protège encore les plus gros de la finance, ça passera pas. Ça mettra les gens dehors. Donc, Wall Street doit avoir conscience de ça aussi, quoi. Et on commence à avoir des manifestations, hein, au moins devant Wall Street. Et ça peut faire boule de neige s'il y a encore, s'il y a une nouvelle réglementation qui est votée, ça passera très très mal, quoi.
Il y a quelque chose de paradoxal dans tout ça, mais je ne sais pas si c'est uniquement dû au fait que je suis très extérieur à tout ça, mais j'ai l'impression que les anonymes qui ont porté cette affaire GameStop sont tiraillés entre deux trucs, entre d'un côté une espèce de joie un peu ludique qu'on peut toutes et tous ressentir à l'idée de foutre un peu le bordel dans des marchés qui paraissent à peu près à l'opinion généralement injustes et éloignés des considérations de tout un chacun, et en même temps, à l'inverse, on va dire, de cette joie, une envie de participer concrètement à ce système et donc de le faire fructifier malgré tout, puisque au final la banque est toujours gagnante, peu importe qui tire les ficelles, au final c'est quand même la banque qui gagne.
Ouais, bien sûr, mais il faut pas voir ces communautés là comme un ensemble homogène, hein. Il y a des gens qui ont voulu bouleverser le système, qui ont voulu s'attaquer à Wall Street, et d'autres qui ont juste voulu profiter d'un élan spéculatif. Là, ça a marché sur GameStop, mais en fait, les intérêts de chacun sont assez différents, quoi. C'est pour ça qu'il faudra voir dans le temps si ça peut se reproduire.
C'est une interrogation qui reste en suspens. Est-ce que malgré le storytelling sympathique des petits porteurs face aux géants de la finance, tout ça n'exclut pas de façon un peu rapide le fait que le monde capitaliste est finalement assez peu menacé par ces histoires, voire en profite ? Merci à Grégory Raymond pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.